Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
On est en train de virer fou, là.
Mathieu Bock-Côté.
Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens.
Richard Martineau.
C'est la queue qui agite le chien, maintenant.
Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas.
La rencontre Martineau Bock-Côté.
Alors, bien sûr, Mathieu, tu veux revenir sur les sondages concernant les intentions de vote au Québec. Mais avant, je parlais de ça, là. Depuis janvier, en France, un millier d'écoles françaises expérimentent l'enseignement de l'empathie pour pouvoir contrer justement la violence à l'école, le harcèlement, l'intimidation, des ateliers d'empathie. Comment tu trouves ça, toi? Mon cher Mathieu.
Je trouve ça formidable et merveilleux. Quelle excellente idée. Bien sûr que non. Mais quelle immense sottise. Non, très honnêtement, on a vu ce débat-là beaucoup évoluer en France. En gros, c'est devant ce qu'on appelle l'hyper-violence chez les jeunes.
Oui.
Une violence accentuée. Devant des agressions qui se multiplient, on se dit que faire. Et moi, je pense que la réponse par l'empathie, comme on nous dit, c'est le contraire même de ce qui est exigé par la situation. Devant cette violence qui s'aggrave, à quoi devrait-on faire appel? C'est à l'autorité. L'autorité, c'est-à-dire, tu commets un acte violent, tu en paies le prix immédiatement. Il y a un psychiatre en France qui parle beaucoup de ça, c'est Maurice Berger, mais c'est pas le seul, qui dit globalement, quand tu fais quelque chose de grave, faut que tu aies une sanction immédiate pour tes jeunes. Sinon, tu n'apprendras jamais. Donc, tu fais quelque chose de grave, sanction immédiate. Petite peine de prison, dit-il quelquefois, mais immédiatement administrée pour que chacun comprenne puis quitte la culture de l'impunité. Et ça, je pense que c'est vraiment l'élément central et absent de la réaction de la classe politique française qui, lorsqu'elle dit empathie, c'est comme si on va soigner le mal par l'encore plus grand mal, par encore plus grand mal, j'entends la faiblesse, la mollesse, l'incapacité à voir le mal lorsqu'il se présente à nous. Lorsqu'on est devant quelqu'un qui massacre ou qui tabasse ou qui frappe un autre, il faut pas lui dire, tu sais que c'est pas bien frapper ton autre, t'aurais pas dû frapper, le petit Mathieu, Jérémy, Mike-Antoine, j'en sais rien. Ce qu'il faut, j'ai inventé le nom Mike-Antoine. Non, ce qu'il faut dans ces moments-là, c'est simplement, paf, la société te dit, tu ne peux pas faire ça. Et je pense que cette sanction légitime, on n'est pas... Alors, je précise qu'une partie de la classe politique française en est consciente. Gabriel Attal veut envoyer des signaux qu'il est d'accord avec ça. Mais la Macronie, c'est toujours ce que c'est deux tendances. Une tendance plus à droite, entre guillemets, une tendance plus à gauche portée par Nicole Belloubet, la nouvelle ministre de l'Éducation. Et l'empathie, c'est comme l'hyper-humanisme revendiqué. D'autant que c'est un mot qui est à la mode. Hein. Moi, c'est un compliment, tu sais, que les gens se font entre eux. Il y a tellement d'empathie. Moi, j'aime l'empathie. Puis franchement, ça m'énerve. Je veux dire, avec l'accent grave. Là. Je veux dire, s'écouter, c'est bien. Converser, c'est bien. Être capable d'être ouvert à la douleur de l'autre, c'est bien. Mais l'empathie autoréférentielle, c'est une capacité quelquefois d'abolir le jugement, d'abolir la capacité critique. Ça devient l'empathie qui devient la seule valeur partagée. Puis à l'école, j'y reviens, une école qui est pas capable d'assumer la saine sanction devant ceux qui sont violents. Puis c'est des violences graves. J'ai beaucoup d'amis profs ici. Puis il m'explique que l'enseignement, ça devrait être dans transmettre un savoir. Mais là, c'est pas ça. C'est créer les conditions pour espérer peut-être le transmettre. Les profs ont peur souvent. Les profs ont peur. Il faut comprendre. Les élèves ont peur à l'école. Donc, si on ne comprend pas qu'il faut se réaffirmer une verticalité nécessaire dans nos sociétés, ben il nous manque l'étape essentielle pour restaurer la paix civile, même dans les classes.
C'est fou à quel point on a de la difficulté à manifester notre autorité. Hier, Mathieu, dans une conversation très intéressante, tu parlais là, de ta détestation de la censure et qu'on devrait permettre aux gens d'exprimer des les idées, même si ce sont les idées des fois qui peuvent choquer, des idées qu'on trouve totalement folichonnes, on répond à une idée par une autre idée et non par la censure. Ouais. Aujourd'hui, dans Le Devoir, Jean-François Lisée écrit un texte très intéressant. Il y a un livre qui est publié, qui est très, très populaire au Canada, qui dit, écoutez, là, toute l'histoire des génocides dans les pensionnats autochtones, c'était peut-être pas aussi grave que ça, c'était peut-être exagéré et c'est peut-être même un mythe qui ne tient pas lorsqu'on regarde les faits exactement. Bon, c'est un livre qui est très controversé, mais Jean-François l'a lu puis il dit quand même, un livre, c'est pas fou, on peut pas l'écarter, il y a des thèses intéressantes et des faits intéressants. Or, le fédéral, nous rappelle Jean-François Lisée, le fédéral s'apprête à agir. Le budget prévoit 5 millions de dollars pour établir un programme de lutte contre le déni des réalités de pensionnats autochtones. Ottawa attend des propositions visant à criminaliser l'expression publique de doute sur le récit du génocide autochtone dans les pensionnats. Donc, tu arrives avec un doute, tu arrives avec des faits précis en disant, Bergane, on n'a pas trouvé de cadavre, c'est faux, les tombes, etc. Là, tu vas pouvoir être criminalisé. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, non mais... Ben, je vois que le Canada, qui était jusqu'ici un pays, moi, je le disais souvent aux Français, je le disais en m'amusant, parce que en France, les lois liberticides sont quand même très fortes. Donc, j'avoue, les Français, vous voulez tout dire, mais vous pouvez rien dire. Nous, au Québec, on veut rien dire, mais on peut tout dire. Parce que nous, on a une vraie culture de la liberté d'expression, mais bon, on n'en fait rien. Et là, moi, cette loi-là, j'y vois vraiment une de ces lois liberticides, une loi sur la haine, entre guillemets, qui cherche, dans les faits, à institutionnaliser un tabou. Je veux dire, que les Autochtones aient eu un mauvais sort dans l'histoire du Canada, personne ne le contestera. Le concept de génocide est un concept particulier. Est-il pertinent? Pendant un temps, on nous a dit génocide culturel. Là, ce qu'on comprend, c'est que la volonté d'avoir une discussion à la lumière des faits sur cette question, ou de vérifier, donc, parce qu'on nous dit quelquefois que contester la tradition orale, ce serait déjà le début de la contestation du génocide. Ben, je m'excuse, mais c'est un peu plus compliqué. Donc oui. Là, on veut, dans les faits, institutionnaliser un interdit. On veut frapper, faire toute remise en question du récit historique nouvellement dominant au Canada. Et de ce point de vue, pour moi, c'est un scandale. Mais là-dessus, c'est assez dur de me prendre à défaut sur cette question-là, en un sens, parce que je crois vraiment, j'y reviens, puis tu me donnais hier la question de la loi Guesso en France. Oui. Mais imaginons qu'on voudrait faire une loi semblable pour les Acadiens. Les Acadiens ont été victimes d'une déportation, c'est de la nettoyage ethnique inaugurale des temps modernes. Bon, quelqu'un qui le contesterait ou le relativiserait, je trouverais que ce serait une personne scandaleuse. Mais est-ce que je dirais faut l'interdire, faut interdire ce propos-là? Ben non, je pense pas ça. Puis quelqu'un qui... Alors, à un moment donné, il faut être capable de retrouver une culture libérale de la liberté d'expression. Une culture libérale de la liberté d'expression, ça vient avec une culture aussi où on se muscle un peu la résistance aux propos qui nous choquent. Je veux dire, je sais pas, pour moi, il y a des tonnes d'affaires qui me choquent, qui m'énervent. Le fait de pas être souverainiste, déjà, ça me choque pas mal. Bon, j'accepte que les gens ne soient pas, mais je trouve que c'est une mauvaise manière de commencer dans la vie. Ben, je vais pas faire une loi pour interdire aux autres pour être souverainiste dans ma face. Je vais m'emmener, puis on hiérarchise pas tous ces valeurs de la même manière. Donc, non, cette loi-là est absolument scandaleuse pour moi. Puis Ottawa, encore une fois, nous rappelle qu'il y a trop d'argent qui dépense de manière insensée.
Tu sais, je veux dire, l'histoire, ça avance avec, il y a des thèses qui sont proposées, puis là, elles sont controversées, puis finalement, avec le temps, on s'aperçoit que ces thèses-là sont prouvées. Par exemple, à la fin de la Deuxième Guerre, c'était le roman national qui a été mis sur pied par Charles de Gaulle. Tous les Français étaient des résistants. Ils ont tous résisté. Il n'y a aucun Français qui a collaboré. C'était ça parce qu'il y avait besoin d'unir le pays. OK, c'est ça qu'il a dit. Et là, soudainement, est arrivé un film, un documentaire qui disait, ben peut-être qu'il y a des Français qui ont effectivement collaboré avec l'ennemi. Oh non, c'était épouvantable, tout ça. Mais ça s'est avéré. Avec le temps, effectivement, il y a eu des études, etc. Et on a vu, oui, c'est vrai, il y avait des Français qui ont collaboré. Bon, mais tu sais, si on avait interdit ça aux historiens de fouiller cette question-là, à un moment donné, on ne serait jamais arrivé à la vérité.
Non, mais je suis absolument d'accord. Et le fait est que, quelquefois, le récit qui est fragilisé est un récit auquel on peut tenir, soit dit en passant. Hein. Mais, encore une fois, la question est de savoir si on doit institutionnaliser des préférences mémorielles particulières ou un récit mémoriel particulier dans l'espace public et de pénaliser et frapper de sanctions ceux qui diraient les choses autrement. Parce que, à partir d'intuitions, de faits, de regards nouveaux. Mais là, je note donc que le Canada devient un État, mais on en parle, ça fait quelques années qu'on la voit venir, cette loi-là, hein. Le Canada devient un État liberticide en matière de liberté d'expression. Il faut dire que le Canada a cette les libéraux ont cette tentation là depuis assez depuis un bon moment déjà, et là ils veulent frapper fort, et je constate que ils sont assez peu nombreux dans l'espace public à oser remettre en question cette volonté de criminalisation du désaccord interprétatif historique. Et de ce point de vue, c'est comme ça que les libertés régressent. On se dit, oui, mais j'ai pas envie d'être le gars qui dit que les Autochtones n'ont pas eu un mauvais sort. Bien sûr que les Amérindiens ont eu un mauvais sort, personne ne dit le contraire, mais l'utilisation du mot génocide et ensuite l'institutionnalisation de l'interdit autour du mot génocide, il y a d'autres qui disent, je préfère pas parler de ça, on va parler d'autre chose. Mais à un moment donné, quand on fuit tous les combats qui peuvent être quelquefois agaçants médiatiquement, on multiplie les terrains minés sur lesquels on n'osera plus s'aventurer. Puis à terme, c'est la culture de la censure et du mensonge qui l'emporte. Parce que quand vous êtes obligé de répéter quelque chose sans même avoir le droit de vérifier, eh bien, quelle que soit, c'est une logique de mensonge. On va le répéter parce qu'il faut le répéter, parce que sinon on va avoir mauvaise réputation. Donc, je le redis, le mensonge là-dedans, ce n'est pas le mauvais sort des Autochtones. Évidemment, le mensonge qui arrive, c'est lorsqu'il y a un interdit de réfléchir à partir d'autres angles historiques que le récit idéologique dominant du moment.
À force de le répéter, le mensonge est perçu comme étant une vérité. C'est ça qui est dangereux. Tu veux revenir sur les sondages? Écoute, quel angle tu veux prendre? PSPP plafonne tandis qu'une lueur d'espoir se pointe pour Legault. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, ben alors, ça dépend ce qu'on entend par plafonne. Moi, la première chose, j'en parlais avec Emmanuel il y a un instant dans mon émission, il y a eu un réalignement politique au Québec depuis 6 mois, 1 an. Le réalignement a eu lieu, puis là, ce qu'on voit maintenant, c'est une forme de stabilisation de l'électorat. Le PQ en première place, une vraie première place, qui n'écrase pas tout, mais qui est une vraie première place. Legault, qui est durablement installé en deuxième, et qui parvient pas vraiment à s'en sortir, mais qui est pas mort non plus. Les libéraux, qui sont cantonnés dans le vote anglophone et allophone. QS, qui, eux, plafonnent vraiment. Il y a le vote protestataire de gauche radicale au Québec, c'est 15%. Puis l'envers de QS, le Parti conservateur, qui est aussi bloqué autour de 10-12. Bon. Ça, c'est le premier élément. La donnée qui me semble vraiment intéressante là-dedans, en fait, c'est le commentaire qui entoure le sondage qui m'a intéressé. C'est ceux qui disent « Aha! Aha! La souveraineté monte pas, vous voyez bien que tout le monde s'en fout. » J'ai un instant, les amis. Est-ce que, ayez une perspective là, un peu plus large, depuis 20 ans, la question nationale n'existait plus dans le débat public. Moi, j'en parlais tout le temps, donc j'ai l'impression que tout le monde en parle tout le temps. Mais j'étais bien assez conscient à un moment donné que j'étais pas mal tout seul à penser que tout le monde pensait comme moi.
Attends une minute. T'es en train de me dire que t'es souverainiste?
Ben, c'est le genre de
ben, écoute, il a fait sa sortie du placard à mon émission. Alors, j'ai réussi à étirer les verres du nez. Mathieu Bocoté est souverainiste. J'avais des soupçons, c'est dit. Bon, vas-y.
Je le cachais avec beaucoup de talent. Bon, alors, bon, je le dis très indépendantiste, si on était quelques-uns, mais on n'intéressait plus grand monde. Soyons honnêtes. Le débat sur la question nationale intéressait les indépendantistes orthodoxes. Puis les autres disaient, bon, on voterait oui quand ça viendra, mais pour l'instant, ça nous intéresse pas. Puis on verra bien. D'ailleurs, c'est encore pertinent, cette question-là. Et là, elle revient dans l'espace public. Plusieurs avaient fait leur deuil de la chose. Tu sais, la jeune génération n'a pas été socialisée là-dedans. Les boomers se sont dit, les plus vieux ont dit, bon, on a perdu. La génération X a un peu refoulé la chose. Hein. C'est le livre de Dominique Lebel, j'en parle aussi. Dominique Lebel raconte ça. Antoine Robitaille en a déjà parlé. C'est comme une défaite qui a fait mal, puis on a décidé de la traiter comme si elle n'avait pas eu lieu. Donc là, ça revient. Puis là, soudainement, il faudrait que l'aiguille de la souveraineté remonte, clac, d'un coup, genre remonte à 45. Si ça remonte pas à 45 d'un coup, ça veut dire que c'est rien. Calmez-vous, les enfants. Le vote indépendantiste était congelé, laissé de côté. Tu sais, les souverainistes, c'était comme des catholiques. C'est-à-dire, il y avait des convictions résiduelles, puis ils n'allaient plus à l'Église. Bon, mais là, ils ont recommencé à aller à l'Église. Donc là, je pense, en mettant le PQ premier dans les sondages. Donc moi, je comprends pas l'espèce de... Bah, oui, je le comprends, parce que certains ont peur que ça monte. Mais le fait est que le vote souverainiste s'est remobilisé. Et c'est de nouveau un vote actif. C'est de nouveau un vote qui porte à voter pour l'indépendance. Ben, c'est pas mal. Donc, ensuite, sur le long terme, ensuite, l'opinion sur des questions comme celle-là bascule devant des événements forts. Est-ce que ça va être la chute de la loi 21 à Ottawa? Est-ce que ça va être la crise migratoire qui s'accentue? Est-ce que c'est un moment de bascule sur le français? Mais le contexte se met en place pour rendre le message souverainiste audible. Mais pendant 20 ans, on était tout seul à parler de ça dans notre coin. Donc, à un moment donné, moi, tous ceux qui disent, un seul discours ne suffit pas à tout faire basculer, comment pensez-vous que la politique fonctionne?
Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce sondage-là. On demande aux Québécois, aux sondés, en fait, si le Québec reste dans le Canada français, si le Québec reste dans le Canada, le français finira par disparaître au Québec Les gens disent non. Et le Canada déploie une stratégie concertée pour nuire au Québec. Qu'est-ce que vous en pensez? Les gens disent non. Donc, le virage un petit peu plus là, rude de PSPP, ça ne percole pas dans la population. Les gens sondés ne croient pas qu'il y a une volonté concertée au Canada pour effacer le Québec, comme le disait le chef du PQ.
Ben, premièrement, on verra sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans si un discours fonctionne. Pour l'instant, c'est sur 10 jours, sur 10-12 jours. Je pense que c'est un peu rapide pour évaluer ça. Ensuite, on a caricaturé la thèse de PSPP. Il a pas dit que le docteur Terreur était à Ottawa chaque jour pour être capable de nous effacer. Il faisait la critique d'un régime où notre existence est incompatible. Puis dès lors, ce régime nous traite comme une anomalie. Puis ce régime cherche à déconstruire la conscience nationale des Québécois pour qu'ils deviennent des Canadiens francophones bilingues comme les autres. Bon, ça, mais là, le complexe médiatico-fédéraliste s'est jeté sur lui en disant « Ah ah, vous pratiquez une forme de conspirationnisme terrifiant ». On a ridiculisé sa thèse. Puis ensuite, moi, je pense que sur le fond des choses, donc évidemment, moi, si tu me demandes dans le sondage, pensez-vous que le Canada cherche à éliminer consciemment les Québécois? Bien sûr que non. Mais si on me demande, est-ce que le régime canadien est compatible avec la survie du peuple québécois? Ah, je te dis non aussi dans ce cas-là, mais là, je pense que là, on touche l'essentiel. Mais le débat a été caricaturé, tout ça. Il faut se donner le temps. Là. Si on est indépendantiste, on se dit, ça va pas renaître tout ça en 3 semaines ou en 4 semaines. Ça prend du temps pour renaître, mais ça peut débouler assez vite dès lors que les événements s'accélèrent.
Et là, on dit PSPP plafonne. Hein, il est à 34%. Il était à 34%. Il plafonne, mais il peut pas monter à chaque sondage. À un moment donné, c'est tout à fait normal.
Non, il y a 2 ans, je pense qu'il aurait aimé ça en motadi plafonné à 34%, là. Mais là, donc là, il y a 2 ans, il était mort. Maintenant, il est à 34%. Ah, il est pas à 40, donc il est mort à sa nouvelle manière. Bah, calmez-vous, les enfants.
Et le fait que les gens veulent plus de pouvoir en immigration, mais veulent pas de référendum là-dessus.
C'est normal, ça. C'est le réflexe pavlovien des Québécois sur le référendum. Référendum, mauvais, mal, mauvais, blah, terrifiant. Alors que, donc, ils veulent l'objectif, ils veulent pas le moyen. Mais si tu mets le référendum, ils vont voter pour. Au référendum de 95, plus jamais. Les gens voulaient pas de référendum, voulaient peut-être la souveraineté, puis quand ils ont fait le référendum, 95% de taux de participation. Un moment donné, il faut prendre, vont en prendre et en laisser.
J'aime bien ça, le réflexe pavlovien. Alors, effectivement, c'est comme si on avait peur du mot référendum. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. On se reparle demain. Salut, bonne journée. On va revenir, bien sûr, sur les résultats de ce sondage-là avec Joseph Facal qui va nous parler de ce qui est caché dans le sondage.